Chers auditrices, chers auditeurs, c'est donc notre dernière chronique matinale de l'année. Je me suis dit que pour marquer cette dernière matinale, je devrais proposer quelque chose d'un peu inattendu. Alors vous aviez l'habitude de mes lectures peu orthodoxes pour un scientifique, vous aviez l'habitude aussi de mes comparaisons exotiques entre les mathématiques et les arts. Alors voici la question du jour. Qu'ont en commun un umlaut, l'analyse fonctionnelle et la euthasie? Des idées, non? Sur la table? Pas trop?
À vrai dire, ça nous plonge dans un grande réflexion.
Alors commençons par le umlaut. C'est une accentuation que l'on retrouve dans la langue allemande et qui indique le passage d'une voyelle à une autre, par exemple le O à E, de A à E et de U à U. Il y a quelque chose d'assez facile à remarquer, c'est qu'à chaque fois, le passage d'une de ces voyelles à l'autre se fait par le même effort de la mâchoire. On descend légèrement le palais et on avance légèrement la langue. Cela met en fait en valeur le phénomène suivant. Les voyelles A et E de la langue allemande sont très proches d'un point de vue des harmoniques produites, et pour passer de l'une à l'autre, il suffit d'un petit effort au niveau de la mâchoire et de la langue. Alors je m'explique. Lorsqu'on produit un son de voyelle, on arrive à distinguer celle-ci des autres par les harmoniques du son produit. Les harmoniques, c'est un peu la signature d'un son, c'est ce qui le définit physiquement. Il a une première fréquence, la plus grave, qu'on dit fondamentale, et toutes les autres, on les dit harmoniques, et ce sont des multiples entiers de la première fréquence. La fréquence fondamentale, c'est celle que l'on repère pour comprendre la hauteur du son, et les harmoniques nous permettent de comprendre le timbre. En fait. C'est pour cela qu'on peut chanter des paroles. On peut produire différents sons sur une même fréquence fondamentale, et la modulation des harmoniques dans leur amplitude permet de distinguer les différents sons du langage. En clair, ce qui permet à votre cerveau de distinguer le son E et A, ce sont les amplitudes des harmoniques produites. Physiologiquement, lorsque l'on chante, les cordes vocales vibrent, et les harmoniques sont produites par les résonances qui interviennent dans notre corps, principalement au niveau de la gorge, de la bouche et des sinus. C'est pour cela que l'on parle de voix de poitrine ou de voix de tête. Cela désigne le principal lieu de résonance des harmoniques, c'est-à-dire quelles sont les harmoniques les plus importantes dans le son produit. C'est aussi pour cela que l'on arrive à dire lorsque quelqu'un est enrhumé, simplement par les sons qu'il produit, c'est l'encombrement du nez et des sinus qui modifie les amplitudes normales des harmoniques. Ce qui est donc amusant avec les trémas du umlaut, c'est qu'ils indiquent par un même symbole un même mouvement physiologique. C'est un peu comme si pour désigner la lettre I, on dessine un sourire. En fait, avec un simple tréma, on indique le fait de faire ce mouvement de la mâchoire. Voilà donc la partie de la réponse concernant le umlaut et l'analyse fonctionnelle.
Oui, la euthasie.
Et j'y viens. Qui est, alors, l'analyse fonctionnelle, c'est une des parties des mathématiques, s'intéresse entre autres à ces questions de répartition d'harmonique. Venons-en donc à la euthasie. Il y a un chant tout à fait reconnaissable de cette région, c'est le chant diphonique. Il est par exemple pratiqué en Mongolie, et ces chants ont une esthétique très particulière, assez déroutante quand on ne connaît pas. En fait, lorsqu'on regarde ces chants selon les harmoniques produites, on se rend compte qu'une ou plusieurs harmoniques sont largement exagérées. Cela fait qu'on a l'impression d'entendre plusieurs notes en même temps, alors qu'il ne s'agit en réalité que d'une seule fréquence fondamentale. Pour produire un chant diphonique, il faut arriver à produire une résonance importante sur des harmoniques ciblées, et cela se fait musculairement avec le larynx, le palais et la langue. Bon, vous remarquerez aussi que dans ces chants, on a souvent des notes très graves qui sont produites. En fait, ça s'explique par le fait que les sons les plus graves sont ceux qui offrent le plus d'harmoniques, puisqu'une plus grande partie du corps peut rentrer en résonance. Ainsi, un son diphonique se repère par une fréquence fondamentale, généralement très grave, et des harmoniques dont certaines sont très amples. Voici un extrait. Alors, sur ce, je vais vous laisser découvrir cette pratique du chant. On se retrouve tout cet été pour des chroniques intempestives. Alors, suivez-moi sur ma page et sur iTunes.
Et bah, la musique de Raphaël me laisse légèrement sceptique, mais merci en tout cas pour cette découverte.
Mais on avait un point commun entre le umlaut et la
Point commun. Enfin, tu nous as éclairé là-dessus.